Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous sommes de retour, 6h30 tout pile, c'est le week-end des experts, c'est le jardin. Chaque samedi, nous sommes avec Patrick Mulan entre 6h et 7h, avant de retrouver Christian PC tout à l'heure pour la maison et un spécial climatisation. Patrick,
oui.
Le 32-16 bien sûr, vous voulez joindre notre jardinier, profitez-en, 32-16 le standard, ou bien si vous avez votre smartphone avec l'appli RMC, vous avez Direct Studio, très facile, vous nous laissez votre message avec votre numéro de téléphone et on peut vous rappeler dans la foulée. Patrick, on va maintenant découvrir les passiflores et les fruits de la passion.
Ce sont des plantes de saison.
Mais voilà.
On va dire.
Alors peut-être pour commencer, quelques mots de présentation sur les passiflores, qu'on en appelle aussi fleurs de la passion. Hein.
Oui, alors on verra pourquoi tout à l'heure. Les passiflores sont principalement des plantes d'origine américaine. On en connaît un peu plus de 530 espèces, donc c'est pas rien. Je crois qu'il en existe une à Madagascar, peut-être deux, trois d'origine asiatique, mais globalement, sont des plantes américaines, plutôt tropicales ou subtropicales. La plante, elle a été nommée Passiflora par Carl von Linné en 1753 comme une quantité impressionnante de plantes. Et elle a donné son nom à la famille des Passifloracées, qui contient 17 genres, dont quasiment aucun n'est connu en France, donc je vous en parlerai pas. Alors si, peut-être Turnera, si vous êtes allé dans les pays tropicaux et que vous voyez, notamment dans les hôtels, souvent, des plantes couvre-sol qui mesurent une vingtaine de centimètres avec des grosses fleurs jaunes, eh bien ce sont des Turnera, famille des Passifloracées. Voilà.
D'accord. Dans un instant, on s'intéressera aux qualités nutritionnelles avec notre médecin préféré, Christian Aquia, qui est déjà là. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Je vois que vous buvez, vous buvez les paroles de Patrick,
bien sûr. Tout à l'heure, il y a 7 minutes 50, Patrick évoquait les longueurs d'onde et les couleurs qu'une plante était capable de faire, c'est exactement la réaction d'une rétine. Finalement, dans le monde végétal et dans le monde animal,
il y a
le même fonctionnement. Quand on parle de chloroplastes, nous on a les mitochondries, et sachez que quand on passe des lumières à 3 mm de la peau, eh bien cela stimule les mitochondries et ça enlève les ridules. Eh bien c'est exactement le même phénomène sur les plantes. C'est phénoménal.
C'est pour ça que Patrick est
parfait. Patrick devait être à l'académie assurément.
Mais oui, assurément. Mais il a pas de ridules, c'est parce qu'il est justement tout le temps au soleil.
Oui,
parce que je suis un peu rond.
Oui,
c'est un peu ça.
Alors on revient sur la fleur de la passion. Pourquoi ce curieux nom, Patrick? Tiens, fleur de la passion.
Alors la plante a été découverte par les Européens via les conquistadors lorsqu'ils ont été en Amérique et ils étaient accompagnés par des religieux, jésuites. Et ces gens-là ont vu dans les organes floraux de la passiflore les instruments de la passion de Jésus-Christ. Alors, quand vous regardez une fleur de passiflore,
qui est très belle,
voilà, vous avez déjà autour de la fleur un cercle de filaments qui sont roses, qui sont pourpres, qui sont violacés, et ils ont vu là-dedans la couronne d'épines. Si vous plongez au cœur de la fleur, vous allez vous rendre compte que le pistil est fabriqué de trois styles, c'est-à-dire donc la partie longue du pistil, qui ressemble vraiment, c'est vrai, au clou qui aurait fixé Jésus sur la croix. Quant à l'ovaire, eh bien, c'est assez drôle, effectivement, il y a vraiment une forme de marteau. Alors, il y a aussi les feuilles qui sont, chez certaines espèces, terminées par des pointes, qui donnent l'idée de la lance qui avait transpercé le flanc du Christ. Et on dit aussi que les vrilles, qui sont caractéristiques des tiges de cette plante volubile, eh bien, évoquent le fouet qui avait flagellé le Christ.
Eh bien, dites-moi, quelle histoire! Est-ce que vous pouvez nous décrire sommairement une passiflore, Patrick?
Alors, je vous ai déjà décrit pas mal la fleur. On va parler de la plante. C'est des lianes assez importantes qui peuvent atteindre facilement 5-6 mètres de long pour certaines. Feuillage persistant. Et donc, les fleurs qui ont une particularité, c'est qu'elles sont éphémères. Quand vous voyez dans un catalogue de pépiniéristes ou sur Internet, lorsqu'on vous vend des plants, une passiflore, une photo de passiflore avec 50 fleurs dessus à la fois, c'est une photo bidonnée, parce que la passiflore fleurit énormément, mais il est rare qu'elle porte, on va dire, plus de 4-5 fleurs à la fois, et rarement en bouquet. Elles sont toujours espacées. Elles sont espacées. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien comment se développent les tiges jeunes des passiflores, vous allez voir la chose suivante. Vous voyez une feuille, une vrille, un bouton floral, un entre-nœud, c'est-à-dire un bout de tige, une feuille, une vrille, un bouton floral. Donc, la floraison est étagée sur l'ensemble du jeune rameau. Et donc, en aucun cas, vous ne pouvez avoir une gerbe de passiflore, comme on vous le montre parfois. Ce qui n'empêche que la plante est quand même très, très sympa. Bien sûr, il y a des fruits derrière ça.
Bien sûr. Est-ce que les passiflores sont parfumées?
La plupart, oui. Alors, c'est pas la rose, hein. C'est pas extraordinairement puissant, mais c'est très important parce que la plupart des passiflores sont entomogames, c'est-à-dire qu'elles sont fécondées par des insectes et il faut bien qu'elles les attirent. Il y a quand même une plante, un cultivar, un hybride qui s'appelle Incense, donc I-N-C-E-N-S-E, qui doit son parfum fort, celui-là, vraiment à ce qui ressemble à de l'encens. Alors c'est pas le parfum le plus agréable qui puisse exister, mais c'est une plante qui est très belle, avec des belles fleurs violettes et puis qui sont donc très parfumées.
Bon, alors Patrick, parce que depuis tout à l'heure vous nous parlez des passiflores, mais l'essentiel c'est de se dire, est-ce que je peux faire pousser en France des passiflores?
Qui s'appelle Passiflora cerulea, la passiflore bleue. Alors, on peut dire des quand même, François, c'est qu'il y a eu des cultivars qui ont été développés à partir de Passiflora cerulea. Il y en a des blancs, par exemple, qui sont très très beaux. Et généralement, c'est quand même plutôt dans le bleu violacé. Elles tiennent, on dit qu'elles tiennent jusqu'à moins 7, moins 8 degrés. À condition d'être bien abrité et dans un sol qui sera pas trop humide pendant l'hiver. Je dirais que globalement, si vous avez un mur qui est bien exposé, un truc du genre sud-ouest par exemple.
Ah oui.
Alors sud-est, ça serait pas trop bien. Pourquoi sud-est c'est pas trop bien? Parce que au petit matin, lorsqu'il a fait bien froid, vous avez tout de suite les rayons du soleil qui reviennent dessus et donc ça peut vous faire vraiment
un ça peut cramer un petit peu là.
Ça favorise l'éclatement, c'est-à-dire que quand les cellules ont pris le gel. Les vacuoles, c'est-à-dire des espèces de poches qu'elles ont à l'intérieur et qui sont remplies d'eau, ces vacuoles se sont prises en glace. Donc elles ont grossi, elles ont poussé sur les membranes de la cellule. Si jamais le dégel se fait pas trop rapidement, vous pouvez avoir des éclatements et c'est là que les rameaux claquent. Donc plutôt donc sur le sud-ouest, sinon. Eh bien, on hiverne la plante à l'abri dans une véranda. C'est quand même parfois un tout petit peu plus sûr. C'est ce que nous, on a fait cette année. On a planté tout ce monde-là dans des pots et on verra bien comment ça va hiverner à l'intérieur.
Donc, exposition lumineuse, sans vraiment un soleil brûlant.
Oui, il ne faut pas que ça soit cramé, oui.
Au niveau de la terre?
Une bonne. Le pH a peu d'importance, ça pousse assez bien dans les sols argilo-calcaires, mais de l'humus. C'est une plante quand même qui a besoin de bon apport de compost, de terreau ou même de fumier décomposé.
Alors avant de donner la parole à Christian Ekia, puisque maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet du fruit de la passion, Patrick, pourquoi on l'appelle grenadille?
Parce que quand vous regardez le fruit de la passion, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une sorte d'œuf avec une peau lisse, comme une grenade. La grenade, c'est plus arrondi. Mais surtout, quand vous le coupez, vous avez quoi? À l'intérieur, vous avez une pulpe avec des pépins. Mmh. Alors, c'est pas aussi flagrant que la grenade qui dégorge complètement de pépins, mais la constitution est la même. C'est-à-dire que vous avez la graine qui est entourée de ce qu'on appelle une arille. Donc, c'est cette forme charnue que l'on va consommer, et c'est vrai qu'avec le fruit de la passion, on mange aussi les graines. Hein. C'est pas le cas avec la grenade, c'est un peu plus indigeste, les graines de grenade.
Comment consomme-t-on justement le fruit de la passion?
Alors il faut savoir une chose, c'est que cette pulpe qui est très fine, qui est très particulière, on la cuit pas. Donc il faut pas en faire, une sauce ou quelque chose.
Ou une confiture, un truc comme ça.
Ça existe quand même, mais c'est rarement tout seul, parce que c'est en même temps, c'est assez acide comme goût. Non, on va surtout l'utiliser dans les salades de fruits, et il en faut pas beaucoup. C'est vrai que c'est extrêmement cher chez les primeurs actuellement. Ça dépasse en général, mais ça descend pas en dessous de 20 euros en général le kilo. Mais une seule
Qui coûte le plus cher, c'est le transport, là. On imagine, non? Ça vient d'où, tous ces fruits?
Ça vient surtout d'Amérique du Sud. En France, par exemple, on produit beaucoup en Guyane. Mais, il faut les récolter à la main. Il faut même parfois les polliniser à la main. Donc, ce fruit, lui, on va l'utiliser dans des sorbets où on va le mélanger avec d'autres fruits. Ça, c'est vraiment très, très bien. On peut en faire des cocktails, on peut en faire des mousses, on peut aussi en faire des alcools.
Bon, alors maintenant, comment... Des alcools? Ne dites pas ça à Christian Ricciard, franchement.
Avec tous les fruits, on peut faire des alcools.
Oui, c'est ça, Christian.
Et oui. Cela dit, là, j'écouterai Patrick des années et des années entières, toute l'année. Ce que je peux constater, c'est qu'il faut parler de la fleur et il y a le fruit. Sur le fruit, beaucoup de sucre. Peu d'antioxydants intéressants, mais beaucoup de sucre et des sucres plutôt en amidon qui ne sont pas finalement insulino-sécréteurs. C'est vraiment un fruit qu'il faut mettre en petite proportion dans une salade de fruits. C'est un fruit de la précaution.
Il y a quand même des polyphénols et
il y a un peu de vitamines ou pas plus que dans une pêche, pas plus qu'il y a.
Il y a un peu de vitamines quand même.
Oui, à condition de la manger fraîche, à condition de la manger rapidement, ne pas la laisser trop longtemps chez soi parce qu'évidemment, il faut vraiment la manger mature. C'est vraiment le fruit qu'il faut manger à la maturité parce qu'au-delà, c'est de l'eau.
Et avant, c'est immangeable. Avant, c'est extrêmement amer.
On est sur une crête de consommation qui est délicate. Et les grands vendeurs de fruits de la passion que je connais à Rungis disent que c'est extrêmement difficile d'avoir de très beaux fruits. Et ces fruits sont chers parce qu'on en perd beaucoup. Donc c'est très important. Le transport est un élément.
Mais voilà, le transport est.
Je veux dire,
l'empreinte carbone des fruits de la passion est colossale quand même, Patrick.
Oui, mais il n'est pas tout seul. Il voyage avec d'autres.
Oui, c'est clair.
Ça, c'est le truc qui m'agace.
Non, bien sûr, mais je veux dire.
Pour le vendeur que je connais, il le met dans des soutes avec des valises et il dit ça coûte quasiment rien.
En plus, le fruit, il est relativement léger quand même.
Oui, c'est pas très dense.
Vous en faites quelques-uns. Non, mais. C'est un fruit climactérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fruit comme la banane que vous pouvez cueillir avant maturité.
Et qui va mûrir, en fait, exactement, durant le transport dans des...
C'est ce que j'allais dire.
Faites l'expérience chez vous. Vous avez acheté un beau fruit de la passion, bien dodu, mais bien lisse. Vous le laissez dans la coupe de fruits. Quelques jours après, la coque va se flétrir, ça va rapetisser. Et à l'intérieur, le fruit va s'être gorgé de sucre. Au départ, il est plus acide et après, il va être de plus en plus sucré.
Et c'est comme la poire, il y a une maturation du fruit. Et d'ailleurs, il y aurait une émission à faire là-dessus.
Effectivement,
il y a une maturation des fruits qu'il faut intégrer, comme les grands vins. Il y a un savoir-faire qu'on n'explique plus aux enfants.
Il faut affiner.
Il faut affiner, je cherchais le terme. Cela dit, maintenant, la fleur. Alors, la fleur est passionnante.
Oui. Est-ce qu'elle a des propriétés médicinales, la fleur?
Colossale.
C'est étonnant de constater que le fruit, finalement, n'est pas hyper intéressant au niveau nutritionnel, mais que la fleur, elle, a un intérêt.
À cause de Pétain, nous avons perdu cette capacité à comprendre que les fleurs ont toutes un intérêt médical. Passiflore est resté pour des raisons culturelles, mais c'est vrai que là, on a un produit qui est véritablement efficace sur la mise en place au niveau cérébral d'une paix et d'un endormissement. Et le souci de Passiflore, c'est que c'est un produit hyper efficace. Et quand dans Euphytose, qui est un produit que je prescris très fréquemment, vous arrivez à vous endormir beaucoup plus facilement, il faut bien se dire qu'avec Euphytose, ne donnez pas ce produit avec d'autres médicaments. Il faut être prudent pour les femmes enceintes. Mmh. Il faut être prudent avec des produits qui ont le même intérêt, parce qu'il n'y a pas que la passiflore qui fait dormir, il y a d'autres produits qui font dormir.
Les pavots,
Et voilà. Et si concrètement vous prenez passiflore avec d'autres produits qui font dormir, vous pouvez avoir des troubles digestifs, des constipations, des problèmes cardiaques. Donc effectivement, c'est un produit à prendre isolément. Et je dirais même un point, c'est sans doute le dernier produit qu'un humain peut prendre à 80 ans. Quand on a 80 ans, les médecins vous interdisent de prendre des médicaments pour dormir, parce que ça peut vous tuer. Eh bien, Euphytose, c'est le dernier produit qu'on prend pour vous apaiser et vous endormir.
Avec une réelle efficacité. D'accord.
Ça, c'est très important.
Alors attention, on ne mange surtout pas les parties vertes, parce qu'elles contiennent de l'acide cyanhydrique, et donc c'est un poison violent.
Patrick,
merci
voilà
d'avoir précisé cela.
Mais bien sûr, on revient dans un instant, on va retrouver vos questions. Bertrand sera là, il va nous parler de ses pieds de tomates qui visiblement ne sont pas très très en forme. Et puis on retrouvera la météo du jardinier et les coups de cœur de Patrick pour terminer ce rendez-vous jardin. 32-16 pour nous joindre, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, le jardin avec Patrick Mulan à mes côtés. On est là jusqu'à 7h. Dans quelques instants, vous retrouverez la météo et les infos. Patrick, avant de faire un point sur la météo du jardinier, c'est Bertrand que l'on accueille. Bertrand de l'Isère. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à tous les trois. Je suis ravi de vous avoir au téléphone.
Eh bien, c'est un plaisir partagé, Bertrand, sincèrement. Et on vous écoute.
Eh bien, écoutez, pour résumer, moi, j'ai fait, donc ça fait 13 ans que je fais du jardin. Je plante les légumes, on va dire, habituels du jardinier amateur. Les tomates, les courgettes, les cornichons, les haricots verts. Et cette année, donc j'ai planté mes pieds de tomates à peu près fin avril. On a eu exceptionnellement les fameux saints de glace, avec un petit coup de froid. Et suite à ça, alors je ne sais pas s'il y a un rapport, je me suis retrouvé avec mes pieds de tomates infestés de pucerons rouges. Mmh.
Oui, alors c'est des pucerons roses, là, vous m'avez envoyé les photos, on les a...
Ouais.
Alors si ça vous intéresse, ça s'appelle Macrocyphum euphorbiae.
Voilà.
Non mais il y a pas mal de pucerons qui attaquent les tomates, mais là il est assez caractéristique. Alors il est pas pire que les autres, hein, ce puceron. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi j'en ai cette année, pas les autres années? Vous savez, la loi Labbé, qui nous interdit tous les traitements dans nos jardins, et dans les espaces verts aussi publics, est en place depuis 2019, 2017 dans l'espace public, 2019 dans les jardins amateurs. Votre problème, que vous exposez très bien actuellement, va ne faire que s'amplifier d'année en année. Parce que il faut pas croire que parce que un politique décide que demain on n'utilise plus de produits de soins et de protection pour les jardins, que tout d'un coup, les ennemis et maladies qu'on avait précédemment vont disparaître comme par enchantement. Et les méthodes dites alternatives que l'on essaye de mettre en place pour parer à ce problème, ça ne fait pas le même effet. Donc, on va progressivement assister à des... Alors, pas jusqu'à des épidémies, et encore, on n'en sait rien, mais des pressions de ravageurs, de bio-agresseurs, comme on dit maintenant, de plus en plus importantes. Donc, dans votre cas, malheureusement, j'ai pas grand-chose non plus à vous donner comme résultat efficace, parce que d'abord, vous avez pu constater, et on le voit bien sur vos photos, les pucerons sont tous groupés à la face inférieure des feuilles.
Exactement.
Donc, si vous utilisez un insecticide classique dont il ne reste plus qu'un seul exemplaire, donc à savoir des pyrètes naturelles, et qui agit par contact, eh bien, il va falloir soulever chaque feuille de tomate pour pulvériser dessous, ce qui va quand même pas être extrêmement pratique. Et puis, on évite de toute façon d'utiliser dans un potager ce type d'insecticide parce que il agit, on va dire, comme un effet de choc et il faut être certain qu'on n'a pas, par exemple, à proximité, notamment en cette saison, des pollinisateurs qui pourraient être en contact avec le produit. Donc c'est pas du tout commode. Donc l'idée, ça serait, évidemment, ça c'est l'idée écologique de base, ça serait de développer la présence d'auxiliaires, donc de coccinelles, de syrphes, d'insectes comme ça, qui sont protecteurs, ou du moins qui sont prédateurs des pucerons à travers leurs larves, de façon à ce qu'on obtienne, on va dire, une sorte d'équilibre naturel. Alors on vous dit, parfois, ça serait bien que vous mettiez, par exemple, des hôtels à insectes dans votre jardin. Personnellement, ça fait plus de 5 ans que j'en ai un. J'ai jamais vu un seul insecte venir dormir dedans. Et j'ai regardé un peu partout autour de nous où il y en a. C'est exactement la même chose. Alors, au départ, ça fait quelque chose d'assez sympa au point de vue du décor. Et puis, petit à petit, ça s'effrite, ça devient un truc moche et c'est pas du tout efficace. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Déjà, faut bien désherber. Faut bien désherber parce que les pucerons peuvent avoir dans les plantes sauvages ce qu'on appelle des hôtes secondaires. Et donc, ça, c'est important. Après, sur la plupart des insectes piqueurs-suceurs, les pièges jaunes.
C'est autre chose.
Qui sont collants, ont tendance à attirer, et notamment les formes ailées. Ailées, c'est pas
oui,
qu'un Z.
Non.
C'est les formes qui ont des ailes. Et qui sont généralement les femelles fondatrices des colonies et donc qui vont venir se coller là-dessus, donc vous allez limiter. Il y a aussi des panneaux bleus qui sont englués et qui fonctionnent également assez bien. Donc voilà, on va avoir à peu près ce seul ensemble de remèdes pour essayer de le faire. Faites bien aussi la rotation des cultures en éloignant le plus possible l'année prochaine la nouvelle culture de tomates de la planche actuelle. Ça pourrait être assez important. Et si vous le pouvez, essayez d'éviter de grouper les cultures. C'est-à-dire que de changer le mode de culture au potager, au lieu de mettre toutes les tomates ensemble, tous les haricots verts ensemble, etc., on mélange tout le monde de manière à ce qu'il y ait des confusions olfactives. Ça donne relativement de bons effets. Et puis, même si c'est interdit, entre guillemets, d'ordinaire, mais quand il fait chaud, comme il va le faire chaud la semaine prochaine, je vous conseille, moi, de doucher, mais à jet violent, vos tomates. Alors, ça, il vaut mieux le faire, on va dire, dans le courant de la matinée, vers 10h, 10h30, pour que ça sèche relativement vite, mais un jet violent, appliqué notamment sous les feuilles, mais ça c'est facile à faire avec un jet d'eau et un pistolet, eh bien vous allez noyer, éliminer une partie des pucerons.
Très bien. D'accord. Voilà Bertrand.
Eh ben, je vous remercie en tout cas pour l'explication. Et puis, je voulais juste faire une toute petite aparté, si je peux, 30 secondes.
Allez-y.
Moi, je suis... j'ai fait une vingaine de boulots depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai 45 ans.
Oui.
Et maintenant, je me suis mis en service à la personne. Et je passe 95% de mon temps déjà dans mon village et dans les jardins. Donc, je suis ravi de vous avoir au téléphone. Je vous remercie pour l'émission que vous faites. Parce que, et notamment pour la météo du jardinier qu'on va avoir.
Ben voilà,
ça
m'aide
énormément. Et ça me permet de bien me régler sur ce qu'il y a à faire au bon moment.
Bon, ben Bertrand, vous avez déjà été présentateur ou pas?
Non, pas du tout.
Radio. Ben alors lancez-moi la météo du jardinier de Patrick Mulan. Comme ça, je reste tranquille.
Ben
allez-y.
Eh ben écoutez, pour l'instant, on va écouter la météo du jardinier par notre cher Miu Miu.
Eh bien, on y va, Patrick. Merci. Moi, j'ai plus rien à dire. Hein.
Ben non, voilà.
Alors, on y va.
Alors, j'ai une information extrêmement importante. Attention, accrochez-vous. Aujourd'hui, 18 juillet, ne jardinez surtout pas entre 9h25 et 19h40.
Ah, la lune !
Il y a un nœud lunaire à 100 degrés.
Un nœud lunaire, dites-moi.
Oui. Je ne sais pas comment la lune fait des nœuds, mais non. Peu importe, c'était comme ça. Si vous y croyez, tant mieux pour vous.
Enfin, c'est peut-être les nœuds qui y croient.
Que va-t-il se passer cette semaine? On va dire que grosso modo, on va vivre une bonne et belle semaine d'été, avec toujours quand même des matinées assez fraîches. On peut avoir des 12-13 degrés dans le nord du pays, au petit matin, c'est quand même pas beaucoup. Et parce qu'il y a des vents qui sont faibles, plutôt d'origine nord-nord-est, pardon, et c'est en permanence comme ça. Pas d'eau du tout avant vendredi. Il est fort probable que l'on ait un week-end totalement catastrophique la semaine prochaine.
Partout.
Parce que, à force qu'il ne pleuve pas, qu'il fasse un peu chaud, parce que la température va continuer à monter un peu. On aura des vraies moyennes d'été autour de 27-30 degrés dans la plupart des régions au milieu de la journée. Et bien entendu, ça a tendance à provoquer petit à petit des orages. Et donc, vous avez toute la semaine pour profiter de votre jardin, de bien arroser, évidemment, parce que il ne pleut pas depuis très très longtemps, de d'augmenter peut-être les couches de paillis, de doucher les feuillages le soir avec la plupart des plantes qui ont besoin d'être reconstituées, même celles dont on vous parle, comme les rosiers par exemple. On dit il faut pas mouiller le feuillage des rosiers, bah faites-le quand même, parce que à partir du moment où l'eau s'évapore en moins de 2 à 3 heures, vous n'avez aucun risque de maladie cryptogamique, et ça fait, je peux vous garantir, très très enfin, une vraie stimulation aux plantes, ça fait du bien. Voilà, et de toute façon, jardiner, ça fait du bien. Donc il n'y a pas grand-chose d'urgent à faire, hormis profiter de son jardin. Les mauvaises herbes, entre guillemets, ne poussent pas, parce qu'il fait sec. Donc ça, c'est une chose importante. Et puis, il n'y a pratiquement pas non plus. Moi, je vois très très peu de maladies. Alors, il y a eu des taches là sur les rosiers. Bon, si ça avait été bloqué, ramassez bien les feuilles des rosiers quand elles tombent pour éviter la propagation. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire.
Parfait. Voilà pour la météo du jardinier. Une belle semaine qui s'annonce. Une semaine qui sera chaude. Et vous savez quoi, ça tombe bien, puisque dans quelques instants, avec Christian PC, on va vous conseiller concernant la climatisation.
Oui.
Patrick, on termine avec vos coups de cœur.
Oui, deux livres. Alors, Mes jardins de Paris d'Alain Baraton chez Grasset. Alain Baraton, vous le connaissez, c'est le jardinier de Versailles. Il a un don extraordinaire pour raconter les histoires.
On l'a eu quelques fois d'ailleurs dans cette émission.
Oui, alors c'est toujours difficile parce qu'il est sur une autre radio presque en même temps que nous, mais bon.
Quelle idée bizarre quand même.
Non, mais il est
incongru.
Franchement, Alain a beaucoup, beaucoup de talent par rapport à raconter les choses, et notamment historiques. Son livre, c'est comme un roman, il n'y a absolument aucune photo, c'est peut-être la critique que je donnerais, puisqu'il raconte tous les jardins, les squares, etc. Il y en a qu'on ne connaît pas, on aurait bien aimé voir un peu la tête qu'ils ont, mais c'est vraiment plus qu'un guide, c'est un voyage dans le temps, dans l'espace, et puis vous êtes mené par le talent de conteur d'Alain. Donc ça, c'est chez Grasset, ça coûte 22 €, Mes jardins de Paris. Et puis pour les amateurs d'oiseaux très importants pour jouer les insectivores, d'ailleurs j'en ai pas parlé par rapport aux pucerons, mais c'est vrai que les hirondelles et les martinets sont certainement les oiseaux les plus consommateurs
bien sûr
d'insectes. C'est pas forcément des oiseaux qu'on connaissait très bien, et il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Les hirondelles de Georges Olioso chez Delachaux et Niesley. C'est un beau livre carré avec des belles images et qui vous raconte vraiment vraiment tout ce qui se passe au niveau des hirondelles, notamment un peu leur déclin. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins. Tout simplement parce qu'on leur offre pas les abris dont elles ont besoin pour nidifier. Ce sont des insectes des insectivores qui sont migrateurs, mais qui sont vraiment très, 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 très.
C'est tellement agréable d'avoir des oiseaux comme ça dans le jardin ou sur la terrasse.
Donc, merci Patrick. Livre, Les hirondelles, chez Delachaux.
Parfait. Et